Bonjour, bonsoir à tout le monde.
Bonsoir. Moi j'ai une petite question. Je veux savoir qu'est-ce que vous avez écrit finalement sur la tombe.
Alors, quand j'ai appris le décès de Irad Lior, donc très très âgé, je suis remonté à Igloolik et mon fils s'était installé là-bas pour développer ce cirque, le premier cirque inuit canadien. Et j'ai tenu à me rendre sur la tombe avec la famille. Et nous avons fait une petite cérémonie rituelle qu'elle m'avait apprise lors des, pendant près de 30 ans. Je suis retourné chaque année pour de longs séjours. Entre autres, on fait le même rituel après le décès autour de la tombe que l'on fait au moment de la naissance autour de l'igloo ou de la tente. Et je vais vous le raconter parce que on l'a pratiqué avec toute la famille. Il faut tourner 3 fois autour de la tombe dans le sens du Sila. Le Sila, c'est le cosmos. C'est l'atmosphère, c'est l'intelligence aussi. Enfin, c'est un concept. Il faut référer à l'Asie, le proto-taoïsme, avant la culture chinoise du temps où c'était des chasseurs-cueilleurs qui habitaient en Asie centrale. Et on retrouve les mêmes rituels encore maintenant, même en Chine. Et alors, il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens du soleil. Alors, ça va vous surprendre parce que dès la petite école, vous avez appris que le soleil tourne en sens inverse des aiguilles d'une montre. Eh bien, ce n'est pas vrai. Et pourquoi? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Pourquoi est-ce que pour les Inuits, pour les Chinois, pour la moitié de l'humanité, le soleil tourne en sens inverse des aiguilles d'une montre? On est dans l'hémisphère nord, là, je parle. Eh bien, tout simplement, tout dépend du point de vue où l'on se place. Alors, vous voyez, on l'a perdu, ça. On appelle ça, nous, perdre le nord quand on n'a plus de repères. Mais comment est-ce qu'on s'orientait au Moyen-Âge? D'ailleurs, d'où vient ce mot, s'orienter? L'Orient. C'était l'Orient. Le lever du soleil. Donc, si vous voulez... Or, quand on est dans l'hémisphère nord, le soleil est plus vers le sud. Et plus vous remontez au nord, quand le soleil disparaît pendant 2 mois à Igloolik, quand il réapparaît, c'est plein sud, sur l'horizon. Et donc, alors, il tourne, évidemment, de l'Orient. Mais si vous regardez vers le sud, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, vous tournez 3 fois, et ainsi, vous assurez le sens du cosmos, la marche du cosmos, le cycle de l'année, le cycle de la vie. Et on fait pareil à la mort. À la naissance, pour accueillir l'enfant dans la vie, c'est l'ancêtre qui revient, donc la vie continue, se perpétue, l'humanité. Et au décès, et alors il faut offrir un petit morceau de poisson séché et un peu de caribou. Et donc, et on l'offre, on le dépose sur la tombe. Mais j'ai voulu en plus marquer ces 30 années de travail. Et Irad Lior est devenu un peu comme un symbole en anthropologie. C'est elle qui nous a fait découvrir les souvenirs intra-utérins comme un genre narratif. Moi, j'en avais entendu parler depuis 10 années, mais toujours on évoquait des vieillards passés ou bien des gens qui se souvenaient juste de l'accouchement, un peu comme le récit moderne que Christian a recueilli et qui est aussi passionnant. Et en arrivant à Igloolik, il se fait que par hasard, le ministre anglican, qui était un Inuk, le révérend Nasho, était apparenté à Iradiyur, qui était une de ses tantes. Et donc je lui dis, je veux enquêter sur le chamanisme, sur les rituels, etc., les connaissances traditionnelles. Et il m'a indiqué deux personnes, Iradiyur et Uyarak. Les deux étaient apparentés, l'un était anglican et Iradiyur était catholique. Alors ils habitaient au deux bouts du village, je les convoque. Et ils acceptent de venir le lendemain dans la petite maison que j'avais retenue, qu'on m'avait attribuée. Et là, on commence l'entrevue en langue inuïde. Mais j'avais quand même, comme j'avais appris le langage du Nunavik, le nord du Québec, qui est un sous-dialecte, mais un peu différent de celui d'Igloolik, j'avais amené avec moi un Inuk qui travaillait depuis plusieurs années. Et donc, pour aider à bien communiquer, plus une Inuk d'Igloolik, donc avec ces deux jeunes, on a réussi. Et donc, je leur dis, mais c'est amusant, quand Rasmussen est venu, on était en l'an 71, quand Rasmussen est venu en 1922, il raconte qu'il loge dans l'igloo du chaman Ava, pas l'éponyme du jeune Jimmy Ava, parce que moi j'ai connu sa grand-mère qui est née au moment de la venue de Rasmussen. Donc sa grand-mère avait reçu le nom du chaman parce que elle est la jeune sœur d'Iradiyur, une sœur cadette, et il y avait une malédiction sur les enfants de ses parents. Et donc on avait peur que tous les bébés décèdent pour suivre les premiers. Elle avait fait des fausses couches au début de son mariage. Alors le chaman a pris le bébé et a décidé de lui donner son propre nom. Mais son nom comme chaman, c'était le nom d'un de ses esprits auxiliaires. Parce que dès la grossesse, quand il était dans l'utérus de sa mère, il a manifesté des comportements étranges. On a cru qu'il mourait, on a fait venir une femme chamane qui a fait du chamanisme et a dit « Cet enfant a un destin peu courant, il deviendra chaman, mais il faut suivre des règles strictes, s'imposer une discipline. » Et bref, elle a reçu un nom chamanique. Ava, c'est un petit esprit du rivage féminin. Alors vous imaginez, un nom féminin, d'un esprit féminin, mais qui peut être transmis par un homme, à un bébé, femme. Enfin, on est, on se dit, mais on en perdrait sa psychanalyse. Enfin, le pauvre Freud serait complètement renversé. Mais qu'est-ce que c'est que ça, ces cycles de génération qu'on inverse Bon, il n'avait pas que ce nom-là, parce qu'elle s'appelait, la grand-mère de Jimmy, Ava Kaudzajuk, qui est un autre esprit auxiliaire du chaman, qui est un esprit mythique, Oriorto, et puis il y en a un quatrième, et puis plus un prénom chrétien. Et donc, voilà. Et alors, je leur dis, mais il y avait deux personnes qui étaient sans doute vos homonymes, une Iradiyur et un Uyarak, qui vivaient et qui étaient. Iradiyur qui était la petite amie de l'autre. Alors ils éclatent de rire, mais ils me disent, mais c'était nous. Ils vivaient donc dans l'igloo même où Rasmussen a fait toutes ses entrevues avec Ava, le vieux chaman, et la femme d'Ava, Orulu, aussi chaman. Et donc la monographie, la première que Rasmussen a fait de cette fameuse expédition de Thulé, est consacré à Igloolik. Et du coup, je me suis trouvé dans une situation extraordinaire de retrouver des témoins de Rasmussen 50 ans auparavant, alors qu'ils n'étaient pas chrétiens. Et j'ai pu leur lire, j'ai passé un mois à ça, la monographie de Rasmussen, et pour chaque ligne, il me faisait une page ou deux pages de commentaires, enfin, une fois transcrit. Alors j'ai enregistré tout ça. Et puis, à un moment donné, je dis à Ira Dyork, mais je venais de faire une enquête justement sur la théorie de la conception, de la grossesse, les rites de passage dans 4 villages plus au sud, et je voulais comparer avec Igloolik. Je savais que Rasmussen était venu et qu'il mentionnait des choses intéressantes. Et alors, il me donne, et je leur dis à un moment donné, est-ce que vous connaissez ici dans le village des personnes qui se souviennent de leur naissance? Alors, Ira Dyork me dit, mais ça t'intéresse? Je dis, mais oui, au plus haut point. Ben, elle m'a dit, moi, je me souviens non seulement de ma naissance, de ma vie dans l'utérus de ma mère, mais avant, quand j'étais mon grand-père, Sabviortalik, qu'on retrouve. Et elle me dit, et elle commence à me raconter un récit extraordinaire, premier souvenir, dans une tombe. Il était mort à la fin d'hiver, dans une tombe, des blocs de neige, et puis il a soif. Et puis il a froid. Donc il repousse le bloc, le dernier bloc de neige, et il était habillé en homme, un vieillard avec une canne, comme moi. Et il se dit, je vais descendre vers l'igloo de ma fille, ça c'est le vieux qui est mort, qui voit l'igloo de sa fille en contrebas, et il commence à marcher, à descendre vers l'igloo. Et à ce moment-là, il voit sa fille qui sort de l'igloo, alors il l'appelle. Il ne dit pas « ma fille » parce qu'il utilisait, en raison de l'éponymie, etc., d'autres termes de parenté. C'est un système qui dure depuis des siècles. Elle ne l'entend pas puisqu'il est un mort. Alors, il essaye de bouger les bras, mais elle ne le voit pas, puisqu'il est un mort. Et elle s'approche d'un petit igloo qui servait de toilette pour uriner l'hiver. Surtout, les femmes devaient faire bien, bien attention. Les menstruations, pendant les menstruations, il y avait des restrictions, etc. Donc, elle entre et il la suit. Et alors, je reviens... C'est Ira Dyork qui parle. Elle me dit, et voilà, alors que j'étais habillé comme un vieillard, je me retrouve dans l'entrée d'un igloo. Et puis, subitement, je suis tout nu. Et elle me dit, je vois ma mère... Non, je vais un peu vieux. Je vois ma fille qui délie la ceinture de son pantalon, de ses culottes de caribou, qui baisse ses culottes et qui s'accroupit pour uriner. Et voilà que je touche le bout de la ceinture qui traînait et que je me retrouve tout nu dans l'entrée d'un grand igloo. Alors j'y entre. Alors elle me voit absolument ébahie, écoutant. Elle me dit, je crois que c'était l'utérus de ma mère. Et là, elle me raconte toute sa vie, etc., l'organisation, le chien que Christian Doc a très bien mis en valeur. De temps en temps, vous savez, sous l'igloo, le soir, j'ai connu l'époque où c'était des villages d'igloo, et quand on voyage, c'était des petits igloos. Le soir, quand on a fini l'igloo, on l'a fermé avec un bloc, on l'ouvre, le bloc de neige, et les chiens viennent un à un pour être nourris. Donc, le chien de tête vient en premier, on lui donne sa ration de viande et de gras, et puis un petit coup sur la tête, le suivant. Et alors, il me dit, puis voilà qu'un chien apparaît à l'entrée, régulièrement, mais caractérisé qu'il avait la bouche fendue verticalement. Alors, regarde encore. Elle me dit, tu sais, je crois que c'était le pénis de mon père. Bon, et puis elle continue. Mais au lieu de venir pour manger, ben, c'est lui qui crachait de la nourriture. Et je pense que je m'en suis nourri, ce qu'elle raconte. Enfin, bref, un récit absolument incroyable. Et pourquoi j'ai voulu le filmer? Ça, c'était en 71. Je suis remonté en 73 avec une petite équipe pour filmer. Filmer ce récit. Parce que quand j'étais revenu dans le laboratoire de Lévi-Strauss où je j'appartenais, j'étais au CNRS à ce moment-là, un de mes profs, qui est décédé maintenant, lorsque j'ai la première fois présenté un exposé sur les résultats de mes enquêtes sur la reproduction de la vie, il y en a un qui, après, me dit « Mais qu'est-ce qui nous prouve que tout ça, c'est pas une invention de Saladin d'Anglure ? C'est tout beau, ce beau modèle que vous nous présentez. » Et alors, moi, imaginez qu'il y avait passé déjà plusieurs saisons, des séjours longs, etc., à essayer d'entrer dans ce système de pensée très complexe pour nous, occidentaux, qui réduisons un peu tout avec notre cartésianisme et puis nos traditions à des choses en apparence simples, mais qui sont et pourtant et comment complexes. Alors, Lévi-Strauss était venu à ma rescousse et avait dit « Écoutez, ce que vous nous présentez a au moins cette valeur heuristique d'apporter de la clarté dans des données qui paraissaient complètement disparates et on n'avait aucune piste pour les décoder. » Et alors je me suis juré ce jour-là que je ne reviendrai plus présenter mes données sans des films montrant les amis inuits, les aînés, racontant ce qu'ils ont à dire, et puis on le traduirait. Et c'est comme ça que j'ai été amené, en fait, à filmer, et que, bon, maintenant, avec les technologies modernes, filmer les entrevues, ça apporte cette dimension incroyable. Il y a bien plus que la voix, il y a bien plus que les mots, il y a la gestuelle, il y a les mimiques, etc. Et ça devient, et je peux dire à Christian, c'est un document ethnographique. Alors, bon, il y a différentes sortes de documents ethnographiques. Et depuis, donc, Lévi-Strauss y a cru. Il ne savait pas que ça me prendrait, en 2006, je l'ai publié, donc, dans cet ouvrage « Être et renaître inuit », mais Christian a oublié le bout du titre « Homme, femme ou chaman ». Parce que grâce à ces deux Ouyarak, qui lui a été élevé, avait été élevé comme une fille, jusqu'à la puberté, jusqu'à ce qu'on lui fasse tuer son premier gibier. Et donc, ils avaient été promis, mais le père d'Ouyarak est décédé, le chaman Ava, et du coup, l'entente qui avait été faite entre les familles pour les marier dans quelques années s'est défaite. Donc, Ouyarak a épousé une autre femme, Ira de Liork a été promise à un autre homme, ce qui fait que leur destin s'est séparé. Mais ils s'appelaient toujours de leur vivant mon fiancé, ma fiancée, mon promis, ma promise. Y compris là, alors ils étaient tous les deux grands-parents, enfin, ils avaient leur propre famille. Alors, c'est pour dire que tout ceci évoque énormément et renvoie à un système très complexe, mais circulaire et d'une logique éclatante quand on la décode. Alors, je vois, je parle trop, il y a des questions.